Bonsoir et bon début de semaine à tous. Les chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, se sont réunis vendredi 31 janvier 2025 lors d'un sommet extraordinaire pour discuter de la situation de l'Est dans l'Est de la RDC. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une solution durable et pacifique pour mettre fin au conflit qui ravage cette région. Par ailleurs, la SADC condamne dans les termes les plus forts les attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Elle insiste sur l'importance du dialogue et de la consolidation de la paix dans l'intérêt des populations de la partie orientale de la RDC. Pour sa part, la East African Community EAC invite le gouvernement de la RDC à dialoguer directement, notamment avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Cet appel a été lancé le 29 janvier au 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC sur les récents développements dans l'Est de la RDC. Le sommet de l'EAC appelle toutes les parties au conflit dans l'Est de la RDC à cesser les hostilités, à observer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux populations touchées. Comment analyser ces différents appels des organisations sous-régionales africaines? Nous en parlons avec Moïla Chiembe, qui est professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Aussi avec nous dans ce débat, Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Il est aussi auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur Ziakwaou, bonsoir. Professeur Ziakwaou, bonsoir. Je crois qu'on a un petit souci avec sa ligne téléphonique. La réalisation va essayer de le rappeler. Ah, vous êtes en ligne. Bonsoir, professeur. Jimmy Kigoma, aussi avec nous dans ce débat, chercheur associé en dynamique, gestion des conflits et gouvernement sécuritaire au bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC. Jimmy Kigoma, bonsoir.
Bonsoir madame, merci beaucoup une fois de plus de m'associer à ce débat. Je salue tous les co-débatteurs. J'en profite également pour présenter mes condoléances à toute la population congolaise et notre profession en particulier, victime de toutes ces activités.
Merci.
À l'activiste et des étudiants.
Merci Jimmy Kigoma. Vous êtes très très nombreux à nous suivre en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi et sur la FM à Kisangani. Vous nous suivez sur la 95.4. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ensemble, nous protégerons la stabilité régionale. Ce sont les mots du président zimbabwéen à l'issue du sommet extraordinaire convoqué par la SADC vendredi dernier à Harare. Les chefs d'État et des gouvernements ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Le sommet a également rendu hommage aux 16 soldats de la SAMI RDC qui ont péri dans le conflit. Les chefs d'État et des gouvernements restent unis pour une solution durable et pacifique. On écoute le président Emmerson Mwanganga, voilà, président du Zimbabwe, dans ses propos recueillis par Billy Volutumba.
Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Nous ne pouvons pas oublier la crise humanitaire résultant du conflit armé qui sévit dans l'Est de la RDC. Le sort de millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne peut et ne doit pas être ignoré. La SADC apprécie le soutien apporté par les partenaires de coopération internationale. Toutefois, pour répondre aux besoins critiques des populations déplacées, il faut faire davantage. Pour remédier à cette situation, les habitants de l'Est de la RDC souffrent depuis bien trop longtemps. La SADC condamne dans les termes les plus forts les attaques de forces agressives. Alors que nous prenons le temps de pleurer notre perte, Notre détermination à assurer la sécurité collective ne peut être ébranlée. L'importance du dialogue et de la consolidation de la paix dans l'intérêt de la population de la partie orientale de la RDC doit être poursuivie.
L'importance du dialogue et de la paix pour le bénéfice des peuples de l'Eastern DRC doit être boldement poursuivie.
Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'EAC appelle toutes les parties au conflit à cesser les hostilités, à observer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et à faciliter l'accès humanitaire à la population affectée. Le sommet a appelé à un règlement pacifique des conflits et a fortement invité le gouvernement de la RDC à s'engager directement avec toutes les parties prenantes, y compris le M23. Professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques dénoncées en France. Comment vous analysez ces différents appels à la paix, appels faits par les organisations sous-régionales africaines? On a d'un côté la SADC qui appelle à un règlement pacifique du conflit, mais qui privilégie le processus de Luanda. De l'autre côté, vous avez l'EAC qui, lui, invite le gouvernement à engager directement des discussions avec toutes les parties prenantes, y compris le M23.
Écoutez bien, Madame Kelly, avant de m'exprimer, je voudrais obtenir votre autorisation pour pouvoir dire qu'avant de parler ce soir, qu'il me soit permis de m'incliner d'abord sur la mémoire de martyrs de Goma. Les morts mutilés, les blessés graves, les maladies déchiquetées et abandonnées, qu'ils soient civils, militaires de FARDC, militaires de la MONUSCO, donc de l'ONU, les militaires de la SADC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ou encore nos patriotes Wazalendo. Alors, face à ce tableau, Madame Kelly, il y a deux acteurs. Le premier, c'est le M23. Le deuxième, c'est le gouvernement du Rwanda ou l'État rwandais, en la personne du président Kagame. Le second, le président Kagame, il a toujours revendiqué la présence d'FDLR au Congo comme un instrument de la menace contre la souveraineté de son pays. Et il n'a cessé de brandir la présence de ces quelques individus depuis le gouvernement de président Kabila jusqu'à ce jour. Dois-je rappeler que lorsqu'il s'est agi de la rencontre de Luanda auquel malheureusement le président Kagame n'a pas participé, le gouvernement de la République démocratique du Congo, contrairement à ce qui se passait avant, avait pris conscience qu'il fallait une fois pour toutes régler l'affaire d'FDLR. Si on relit bien les protocoles de règlement du différend sur l'aspect militaire qui a été conçu, le gouvernement congolais a fait une concession majeure en considérant, une fois n'est pas coutume, que l'FDLR, ce sont des sujets rwandais qui sont sur le territoire de la République démocratique du Congo avec le statut des réfugiés, c'est-à-dire sous le contrôle et la protection des Nations Unies. Et que ces derniers doivent rentrer dans leur pays aux conditions prévues par le droit international. Évidemment, certains détails restaient à éclaircir ou à préciser entre les deux parties. Ceci étant, le gouvernement rwandais avait donné son accord préalable sur ce fait, ce qui a conduit le gouvernement congolais à cette concession. Il s'est fait malheureusement que lorsque tout le monde s'attendait à ce que l'accord soit signé, le président de la République du Rwanda a fait fond bon. Il ne s'est pas présenté à Luanda. Le président Tshisekedi était tout seul avec le médiateur, le président de l'Angola. Ce qui fait que ce qui a été pensé depuis des années a été perdu, c'est-à-dire le Rwanda n'est pas venu signer avec la République démocratique du Congo pour régler l'affaire d'FDLR, qui est le prétexte stratégique militaire de tout le temps comme étant l'objet de la menace première qui contraindrait le Rwanda à avoir le regard vers la République démocratique du Congo et éventuellement, dans la justification officielle du gouvernement rwandais, de s'auto-défendre, c'est-à-dire de mettre ses forces en mouvement ou éventuellement de les prépositionner en République démocratique du Congo, soi-disant pour faire face à cette menace.
Alors, professeur, aujourd'hui, la situation...
Que le gouvernement congolais ayant fait cette concession, pourquoi alors le Rwanda a fait faux bond en dernière minute?
Alors, professeur, s'il vous plaît, aujourd'hui, le M23 soutenu par le Rwanda occupe une grande partie de la province du Nord Kivu. Les appels fusent de partout pour demander aux parties au conflit de pouvoir régler cette crise pacifiquement. Au dialogue, il faut relancer le processus de Luanda, d'un côté, hein, c'est ce qu'on demande, de l'autre côté, il y a certains pays qui demandent à ce qu'on puisse revenir à Nairobi avec tous les groupes armés congolais, y compris le M23, afin que le gouvernement puisse discuter directement avec ce groupe rebelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver la solution à cette crise.
Mais madame, je suis en train de vous dire en prélude que cet appel s'adresse au gouvernement rwandais, au président Kagame en premier. Parce que le gouvernement congolais, quelle que soit sa bonne foi, ne peut pas seul faire la paix. S'il faut mettre fin à la guerre, notamment stopper l'avance du M23, protéger les populations qui sont totalement abandonnés, tués, massacrés. L'armée rwandaise est sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le président Kagame l'a reconnu dans la réponse qu'il donne au président sud-africain. Alors, s'il y a lieu de stopper la guerre sur les demandes réciproques des deux organisations, c'est d'abord le Rwanda dont les forces, madame, nous avons répété 1000 fois, que si le Rwanda, en tant qu'État souverain et son armée, n'était pas derrière le M23, nous n'en serions pas là. Tout le monde l'a reconnu, y compris le gouvernement rwandais lui-même. Donc, la première armée, madame, qui massacre sur le territoire du Congo, et qui est non seulement dans Goma et autour de Goma, c'est l'armée rwandaise. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc, si vraiment il y a la bonne foi. C'est d'abord la bonne foi du gouvernement rwandais et de son président.
Alors, il faut retourner à Luanda.
Madame, le deuxième acteur à qui s'adresse ces demandes, c'est le M23. Écoutez-moi, le M23 fait la guerre en partant du principe que, d'abord, en se drapant, c'est-à-dire en revendiquant l'appartenance à une des communautés congolaises, les Tutsis congolais. Or, le M23, madame, ne représente pas tous les Tutsis congolais. Et d'ailleurs, nombre de Tutsis congolais ne sont pas membres du M23. Que certains membres du M23 soient Tutsis congolais est indiscuté. Mais madame, ces Congolais qui prétendent avoir des droits, et ils accusent le gouvernement congolais d'hier et d'aujourd'hui de violer leurs droits. Le Congo, madame, c'est un pays de minorités. Il n'y a pas que les Banyamulenge qui sont des minorités. Par conséquent, imaginez-vous, que se passerait-il, madame, si toutes les minorités de la République démocratique du Congo, les armes à la main, s'en prenant à la nation, s'en prenant à l'État, au motif que ce dernier n'a pas protégé leurs droits. Il n'y aura plus de Congo. On ne parlerait même pas de la balkanisation, parce que serait la fin de la République démocratique du Congo. La première fois, il y a 10 ans,
professeur, essayez d'être concis,
a prétendu que ses droits étaient bafoués. Madame, il y a eu l'accord à Manileo, dont on ne parle plus aujourd'hui. Cet accord a été signé. Une bonne partie des clauses ont été appliquées. Même si certaines clauses ne l'ont pas été, est-ce que pour que ces clauses soient appliquées, faut-il encore une énième guerre avec destruction, massacre? Non seulement au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, mais en plus, madame, aujourd'hui, si les hommes du M23 qui revendiquent leur appartenance à la nation congolaise tuent dans la nation, autour même de leur case et de leur village, comment peut-on expliquer demain la volonté de vivre ensemble des Congolais, y compris la communauté revendiquée par le M23?
Professeur,
nous sommes là
Moïla,
devant une absurdité.
On vous garde
et
encore,
s'il y a
garde,
lieu d'écouter professeur. L'appel, c'est d'abord, madame, dans l'ordre, l'État rwandais et son armée, le M23, qui lui donne le prétexte. Parce qu'en réalité, la stratégie impériale du gouvernement rwandais n'a rien à voir avec la prétention du M23.
Alors, les professeur, Maïla, on vous garde encore dans cette émission. Vous êtes trois à participer, à prendre part à ce débat citoyen, à ce dialogue entre Congolais. Martin Ziakouaou, je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales et professeur d'université, chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Vous êtes auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Comment vous analysez ces appels à la paix, au dialogue fait par ces organisations sous-régionales?
Alors, très rapidement, je voudrais rappeler, madame, si vous le permettez, que la RDC est membre de plusieurs organismes régionaux ou sous-régionaux. Elle est membre du COMESA, de l'East Africa Community, de la SADC, de la CAC, Conférence économique des États de l'Afrique centrale. On peut ajouter comme mécanisme la CIRGEL, ainsi que le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force est de constater que de tous ces organismes, il y a l'EAC et la SADC qui sortent du lot. Et c'est normal, parce qu'il y a deux processus qui sont axés sur le règlement de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Il y a d'une part le processus de Nairobi, qui est mené sous l'égide de l'East Africa Community, et il y a d'autre part la SADC, qui est très impliquée au travers notamment du déploiement de sa force à Zamidia. C'est peut-être étonnant que la CIRGEL, qui est dirigée et présidée par l'Angola, du reste pays assurant la facilitation entre la RDC et le Rwanda, n'ait pas convoqué un sommet conformément au texte régissant cette structure. Nous pourrons peut-être le développer. Mais pour revenir à votre question, il y a d'une part le fait que le processus de Nairobi est tombé en léthargie et la SADC est face à un choix à opérer entre la cohérence à entrer en guerre en vertu du pacte de défense mutuelle en vertu duquel les membres de la SADC sont appelés à exprimer de la solidarité à l'égard d'un État, en l'occurrence la RDC, en but à des problèmes sécuritaires, ou de dire il y a risque d'embrasement régional
le calcul stratégique entre le coût et les gains pourrait requérir de revoir quelque peu les calculs de manière à réduire les risques d'instabilité, d'où l'appel, je pense, au dialogue. Et la RDC acceptait le dialogue dans le cadre du processus de Luanda. La RDC a également accepté le dialogue, y compris avec le M23, dans le cadre du processus de Nairobi qui devrait être revitalisé. Et donc, ça signifie que la CIRG qui est absente, mais dont le président et dont le pays assurant la présidence est membre de la SADC, on peut considérer que la SADC, dans une certaine mesure, porterait la voix de la CIRG. Donc nous sommes en réalité dans un dialogue visant, il me semble, à revitaliser la coordination du processus de Nairobi et de Luanda. Parce qu'il faut peut-être rappeler, il y a une feuille de route qui était signée en novembre 2022 pour coordonner les deux processus. Et en vertu de cette feuille de route, l'EAC avait déployé une force raisonnable dont les résultats mitigés ont été à la base de tout le développement que nous avons suivi. Et donc, il me semble que l'objet, non seulement des appels lancés par les sommets des deux organisations régionales, mais aussi l'objet du sommet entre les deux organisations prévu le samedi prochain, s'inscrirait dans le cadre justement de la revitalisation d'une coordination entre les deux processus. Honnêtement, peut-être ça serait intéressant à l'analyse, d'autre part, d'anticiper sur les préalables peut-être à remplir, mais aussi ce qui pourrait advenir dans le cadre justement de la revitalisation de la coordination entre les deux processus, ainsi que les conséquences qui pourraient en découler. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps.
Alors, il y a un auditeur qui nous a écrit, il s'appelle Askofo Mobali, depuis Bukavu, Sud Kivu. Il dit ceci, l'analyse de ces différentes déclarations des organisations sous-régionales africaines met en lumière une contradiction flagrante et relève un certain degré d'hypocrisie politique dans les discours des États membres, deux discours opposés sur une même crise. La SADC condamne fermement les attaques du M23 et reconnaît l'implication du Rwanda, appelant à une solution pacifique, mais tenant un discours clair contre l'agresseur. L'EAC, en revanche, adopte une position plus ambiguë en appelant la RDC à dialoguer avec le M23 sans insister sur la responsabilité du Rwanda. Professeur Ziakwa Wissé, comment vous réagissez à l'analyse de cet auditeur de Bukavu?
Alors, vous savez, madame, la problématique qu'ils examinent fait peser sur nos épaules, même sur notre cerveau, une certaine charge émotionnelle. Et je suis tout à fait conscient de cela, et je voudrais fournir beaucoup d'efforts pour me surpasser, et tout en affirmant mon devoir patriotique, de faire un effort pour faire jaillir la lumière devant nous aider à renforcer l'élan du patriotisme, en soutien aux efforts de paix. La RDC était absente du sommet de l'East Africa commune. Donc, ça signifie que nous n'avons pas porté de voix et il n'y a pas eu un État, je m'imagine, ayant porté la voix de la RDC. Pourrait-on en dire que c'est une conséquence de la politique de la chaise vide? Je ne sais pas. Mais je suis tenté de penser que dans les discussions diplomatiques, la présence physique, ou même virtuelle, puisque ce sommet est était aussi en mode virtuel, aurait peut-être pu éviter certains éléments dans le communiqué final. Mais peu importe, puisque ce n'est pas la fin, et comme l'auditeur vient de le souligner, nous sommes confortés dans une certaine mesure par la position affichée par la SADC. La grande question consiste maintenant à savoir qu'est-ce que nous voulons qui puisse découler du sommet entre les deux organisations prévu le samedi prochain. Et qu'est-ce qui est fait pour que le résultat de ce sommet puisse conforter la position congolaise, aussi bien sur le plan diplomatique que dans tout ce qui va avec dans le sens du règlement de ce conflit. Et moi, je pense que si nous allons au-delà des mots pour saisir l'esprit de ces communiqués et surtout voir ce qui se projette, ça pourrait nous aider à éviter la polémique et à rester concentré sur ce qui est essentiel. Mmh. Et ce qui est essentiel, il me semble, c'est le rétablissement de la paix, tout en affirmant la dignité de la RDC en tant qu'État.
Merci, professeur. Jimmy Kigoma, vous êtes chercheur associé en dynamique, gestion des conflits et gouvernance sécuritaire au Bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC. Vous êtes aussi expert en questions holistiques des jeunes et activistes de la société civile. Pensez-vous que ces appels seront suivis par les parties au conflit?
En fait, merci beaucoup, madame. En fait, moi, personnellement, cet appel de la SADC tout comme de l'EAC, je voulais peut-être utiliser qu'il s'agit, en autre terme, d'une intervention de Saint-Père Poquet. On connaît, je sais le début, comment est-ce que ce conflit a commencé. On connaît tous les rapports qui ont été produits par les experts des Nations Unies, impliquant directement et indirectement les Rwanda le 23, mais toutes ces organisations sous-régionales n'ont pas réagi. Et ils ont attendu que la ville de Goma soit prise pour qu'on voie leur intervention dans ce sens-là. Et quand on essaie d'entrer en profondeur, ce silence de tous les chefs d'État qui l'ensoient la sous-région, qu'il soit des organisations, des membres, des États membres de l'EAC, tout comme de la SADC, ont été considérés à un certain moment par plusieurs analystes comme un silence coupable parce que les faits ont été avérés, les faits ont été prouvés, comme je le disais, les experts ont produit plusieurs rapports sur l'implication du Rwanda aux côtés du M23 aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé à Goma a été peut-être un détonateur pour les pousser nécessairement à réagir. Mais comme vous le savez, les États ne réagissent que sur base de leurs intérêts. On sait que l'Afrique du Sud, qui est un pays tellement influent dans la SADC, tout comme la Tanzanie, ils ont des cas qui voulaient à la République démocratique du Congo. Et vous vous souvenez que lors de ces récents affrontements, il y a des sujets tanzaniens, tout comme sud-africains, qui ont péri sur et le théâtre de guerre. Cela semble être une motivation peut-être de plus pouvoir l'Afrique du Sud, tout comme comment dirais-je, la SADC, tout comme l'EAC intervenir dans ce cas. S'il faut revenir aussi sur l'EAC, on connaît que la République démocratique du Congo est un pays qui a adhéré peut-être dernièrement dans l'EAC. En dehors du président burundais qui s'est exprimé franchement sur cette affaire, aucun autre chef d'État, qu'il soit l'Ouganda, comment dirais-je, la Tanzanie, le Kenya et le Sud-Soudan sur cette affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Et même la pression, même la prise de la ville de Goma a été considérée comme une pression sur le gouvernement congolais de le débit qui n'a pas été d'accord avec la négociation directe avec le M23. Et donc la prise de Goma, comme nous le savons, moi je vis à la province du Nord-Kivu, la résurgence, c'est un phénomène qu'on connaît tous, c'est l'origine, et jusqu'aujourd'hui c'est le même scénario, malheureusement nous Congolais on n'a pas pris à compte. La manière dont ils ont commencé à prendre Bunagana, c'est la même façon qu'ils ont commencé vers 2012, mais cela ne nous a pas servi de leçon, nous Congolais. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. J'estime que s'il faudrait qu'on les bloque à partir de Bunagana, on ne serait pas à ce niveau ici. Et on a attendu qu'ils soient, qu'ils prennent la ville de Goma, parce que vous n'êtes pas peut-être dans la province, vous les voyez sur les images, mais ce qui s'est passé, Goma, c'est horrible. Goma, c'est une ville aujourd'hui à forte densité de la population. Une guerre directement, des affrontements directs dans la ville de Goma qui a pris des personnes, évidemment sur le bilan qu'on est en train d'évoquer, alors que on peut aller même au-delà de ce qui a été dénoncé, ce qui a été annoncé comme mort. Je pense que pour moi, je ne comprends pas cette intervention tardive des États membres de l'EAC, tout comme de la SADC, qui pour moi, comme je l'ai dit au départ, je les considère comme des sapeurs-pompiers qui ont attendu qu'il y ait un désastre pour qu'ils interviennent.
Alors, donc cela est pour garder
des personnes.
On va
comme
vous
garder. Je le disais, on
était... Jimmy Kigoma, vous allez rester en ligne, hein, on va prendre très rapidement. On va vous garder en ligne, hein, vous avez toujours la parole, mais on va prendre d'abord cet auditeur très rapidement qui nous appelle depuis la ville de Goma au Nord Kivu.
Désiré Kiakwa, depuis la ville de Goma. Plusieurs acteurs internationaux et régionaux sont impliqués et cherchent à trouver une solution pacifique au conflit dans l'est de la RDC. La complexité de la situation et les différents intérêts en jeu rendent difficile la recherche d'une solution rapide et durable. Néanmoins, l'EAC, c'est une organisation proche de l'agresseur et a intérêt dans le fait que le M23 gagne du terrain.
Alors, que pensez-vous de ce point de vue de Désiré Kiakwa qui nous a appelé depuis Goma au Nord Kivu? Jimmy?
Je partage l'avis de cet auditeur. Je partage l'avis de cet auditeur. Je l'ai dit même tout au long de mon intervention. Et au-delà, quand vous voyez la proximité du Rwanda, avec pas mal d'États membres de l'EAC, notamment le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, qui sont des États aussi qui sont intervenus presque dans les dernières guerres qui ont prévalu à la République démocratique du Congo, donc toutes ces positions ne peuvent pas nous étonner. On a vu à maintes reprises les interventions du président Kenya aujourd'hui, qui est président, comment dirais-je, de cette structure sous régionale. Et donc cela étonne ou pas. On a vu la proximité, et s'il faut revenir même, on a vu lorsque les forces de l'EAC sont arrivées au Nord Kivu, au départ qui ont suscité autant autant, comment dirais-je, d'espérance ou d'espoir pour le peuple congolais nord-kivoussier en particulier, mais du coup, lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, une manière peut-être d'anticiper les relations avec les Rwandais, ils ont changé des missions que tout le monde prétendait attendre d'eux.
Donc, alors, vous êtes d'avis aussi
on n'est pas étonné, mais il faut voir.
Vous partagez l'avis des auditeurs qui pensent que.
Exactement, direct. Ils vont directement et contre, comment dirais-je, la volonté du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui a tout nié, qui a, vous laisse dire, tout refusé comme proposition de négocier directement avec le M23, c'est là que c'est où ils interviennent. Et donc c'est là déjà, ils illustrent leur complicité avec tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Et même dans cette organisation, la République démocratique du Congo semble être un pays seul. Non seulement l'appui du Burundi que nous avons dans cette organisation, surtout les AC dont j'étais en train de parler, on s'imagine qu'il y a un conglomérat, il y a une complicité générale contre la République démocratique du Congo.
Merci Jimmy Kigoma, on va vous redonner.
Le global, en termes universels, la communauté internationale, ça étonne évidemment, autant comme on le disait, les rapports qui ont été publiés par les experts des Nations Unies, on attendait aussi, évidemment, la population nord-kivoussienne attend aussi que les Rwandais soient sanctionnés à travers, comment dirais-je, la charte des Nations Unies.
On va revenir, on vous revient, Jimmy Kigoma. Jimmy Kigoma, on vous revient, on vous revient, le temps de prendre ces deuxième auditeur, voilà, qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tsopo. Ce sera pour vous, professeur Maïla Chiyembe.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tsopo. Les différents appels des organisations sous-régionales africaines pour le retour de la paix reviennent sur le concept de dialogue comme moyen de mettre fin à la crise qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. En revanche, ils se divergent sur les cadres et les acteurs qui doivent dialoguer. Pour la SADC, le dialogue doit se faire dans le cadre du processus de Luanda, alors que pour l'EAC, la RDC doit directement négocier avec les groupes armés dont le M23, ce qui semble être une ligne rouge pour le pouvoir de Kinshasa. À mon avis, ces appels semblent être loin à résoudre le conflit au regard des positions divergentes des belligérants et surtout que chacun d'entre eux a des alliés derrière sa position, ce qui présage le risque d'une confrontation de plusieurs armées sur les sols congolais, dont la principale victime sera la population congolaise.
Professeur Moïla.
Écoutez, madame, si j'ai bien compris notre compatriote, la question de la paix et l'appel à la paix, nous sommes à la case de départ. Les organisations et les États qui sont derrière, la première chose à retenir est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Que les dirigeants de ces organisations, à travers elles, défendent leurs intérêts ou leurs intérêts nationaux, on ne peut pas leur faire un reproche. C'est le devoir souverain de chaque pays de défendre les intérêts de son pays, soit sur le plan national, soit sur le plan régional, soit sur le plan de l'intégration régionale. Chaque pays a l'obligation préalablement de défendre ses propres intérêts, naturellement, en discutant avec les autres, en tenant compte de leurs demandes, pour que ça se fasse amicalement. C'est ce qui explique pourquoi les uns invitent au dialogue, d'autres demandent une solution pacifique. Mais ça, c'est, madame, ce qu'on appelle en français, c'est un effet de manche. Quelle est la réalité ? Qui est-ce qui doit faire la paix, c'est-à-dire répondre à cet appel et éviter que ce pays ne sombre encore dans un chaos encore plus flagrant? Dans l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Rwanda. Madame, l'armée rwandaise est sur le territoire de la République démocratique du Congo. On a même parlé pour la première fois des forces spéciales qui sont à la base de l'assaut sur Goma. Et le gouvernement rwandais n'a pas dit le contraire, tout simplement en rappelant qu'il n'a fait que défendre le territoire national menacé. Donc, si ces appels peuvent être entendus, le premier destinataire, c'est le président de la République du Rwanda, et qui doit y répondre. Et qui lui donne un autre artifice pour continuer sa stratégie? C'est le M23. Le M23 se considère ou se présente comme étant un groupe des Congolais dont les droits seraient bafoués par l'État et qui les revendiquent les armes à la main. Madame, si les hommes et les femmes du M23 sont véritablement Congolais, comme ils le demandent, on n'a pas le droit de mettre en doute. Mais le Congo, c'est leur pays. La ville de Goma, qu'ils sont en train de mettre en miettes, c'est leur village, c'est leur ville, c'est leur pays, c'est leur territoire. Ils n'ont pas à attendre la bénédiction d'une organisation régionale pour comprendre qu'ils sont chez eux, quelle que soit la légitimité de leur demande, madame, quels que soient leurs intérêts. Ils doivent comprendre les premiers qu'ils sont chez eux, si leur revendication est réelle. Alors, même quand on est en colère devant ses parents, devant ses enfants, il y a des moments où il faut savoir raison garder. C'est à eux, ce n'est pas aux États qui lancent l'appel d'y répondre. C'est au M23 de prendre conscience, parce que en ne prenant pas conscience de ces axes, le M23 est en train de détruire le sort des Tutsis congolais. Parce qu'on va assimiler cette barbarie à l'ensemble des communautés des Tutsis qui n'ont rien à voir en réalité. À supposer même que certains de leurs droits s'abattent par l'État congolais. Est-ce par la guerre perpétuelle qu'une minorité des Tutsis prend le risque pour l'agenda d'un État étranger, le Rwanda en l'occurrence, de détruire leur pays, de détruire leurs compatriotes, de détruire leur sol? Non, madame. Ce ne sont pas aux États de ces organisations qu'il faut s'adresser. Il faut s'adresser à nos compatriotes du M23 qui donnent une occasion au Rwanda d'appliquer son agenda sur la République démocratique du Congo au motif qu'il y a une minorité de Congolais, les Tutsis, moi, le Rwanda, comme rempart, je viens les protéger.
Merci.
C'est le M23 qui est derrière cette charge. C'est au M23 et à ses hommes de prendre conscience qu'il ne faut pas aller trop loin. Parce que même s'il y a dialogue, madame, les gens du M23, les Tutsis congolais, si, dans l'hypothèse que nous indiquons, sont congolais, ils sont obligés de vivre dans le territoire qu'ils sont en train de détruire en ce moment. Donc, l'appel au dialogue n'est pas destiné aux étrangers. Je pense qu'il y a, des occasions comme celui que vous nous donnez de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont.
On va aller à Kolwezi, cette fois-ci, dans la province de Lualaba, pour écouter ces autres auditeurs.
Auguste Kadiman, depuis Kolwezi. Je pense que le gouvernement ne doit pas compter sur ce qui ressort de ses assises, car plusieurs fois, on a parlé du cessez-le-feu et de la résolution pacifique du conflit sans que rien de concret ne soit observé. Je pense que la meilleure façon de faire consiste à ouvrir plusieurs fronts partant de Bounia, du Maniema et du Nord Kivu, afin d'anéantir l'ennemi qui ne fait que gagner du terrain chaque jour. Merci.
Professeur Ziakoua, oui, je vais ajouter cet autre auditeur, cette autre réaction. C'est un auditeur, Kariki l'anonymat, qui pense que les positions opposées montrent que les organisations régionales et africaines ne sont pas neutres et sont influencées par les intérêts de leurs États membres.
Madame, la notion de neutralité n'est pas neutre. C'est-à-dire, être neutre, c'est prendre position par rapport à une question à régler. Ces organisations sont des instances de coopération. Les États y vont non seulement pour des intérêts, mais aussi, et je voudrais peut-être souligner cela, parce que c'est le professeur Chiembe a dit que je ne partage pas, c'est que les intérêts ne sont pas des données, ce sont des constructions. Et ces constructions sont aussi le fait des perceptions. Nous, nous sommes Congolais. Nous souffrons dans notre chair de ce qui se passe. Mais nous devons nous éviter de penser que les autres perçoivent ce que nous vivons uniquement sous le prisme qui est le nôtre. Je peux aller plus loin dans la réflexion pour que nous puissions creuser, madame. M'en prendre à la SADEC ou à l'EAC, mais plutôt dans une perspective de mieux nous y prendre au sommet de samedi, de questionner leur perception du problème que nous vivons et partant de leur perception, évitant de penser qu'ils doivent voir les choses comme nous le pensons, nous puissions alors construire un narratif qui soit persuasif. Il me semble que c'est quand même très important que nous puissions mettre assez d'accent sur cet aspect. Parce que la position du gouvernement est claire. Lorsque je suis le professeur Tchim, j'ai aussi un peu peur. Parce que j'ai l'impression qu'en même temps, il dit une chose de son contraire. Par quel mécanisme le gouvernement va-t-il faire prendre conscience au M23? Encore que la notion de la conscience, quelle est sa place en relation internationale? Quelle est sa place dans les études sécuritaires? Je voudrais que nous puissions questionner cette problématique avec moins de passion en regardant ce qui est et non pas ce qui devrait être. Ça nous aiderait en tant que chercheurs à être beaucoup plus utiles auprès des instances décisionnelles. Pour revenir sur ce que notre ami Auguste a dit, je comprends ce qu'il dit, mais naturellement, lorsqu'on est membre d'une organisation intergouvernementale, c'est soit puisque l'on veut y exercer de l'influence et amener les autres vers ce que l'on veut, ou c'est parce qu'on n'est pas en mesure d'obtenir ce dont on a besoin, alors on y va pour obtenir, bénéficier de la solidarité des autres. Je ne sais pas si aujourd'hui la RDC exerce de l'influence au sein de la SADC et de l'East Africa Community pour persuader ses États et même les contraindre à épouser son opinion. Je ne sais pas. Mais dans l'hypothèse où c'est la RDC qui aurait besoin de ces organisations, puisqu'elle se retrouverait dans un contexte nécessitant l'appui, l'accompagnement des autres, je pense que nous devons y aller avec assez de réalisme. Solliciter, plaider pour l'ouverture des fronts, je ne sais pas, mais je me demande seulement si c'est réaliste. Mais dans l'hypothèse où ça ne serait pas réaliste, puisque justement la RDC lance l'appel au Conseil de sécurité, à l'Union africaine, à la SADC, ça signifie que la RDC a besoin du soutien des autres, il faudrait que nous puissions tenir compte de leur perception du problème et que nous puissions développer une intelligence dans le narratif pour les persuader de manière, dans la limite des moyens qui sont les nôtres, nous puissions réduire le coût et obtenir un peu plus de gains.
Merci. Jimmy Kigoma, aujourd'hui, le M23 soutenu par le Rwanda sont dans certains territoires du Nord Kivu. Ils sont aussi au Nord Kivu. Alors, la solution, est-ce qu'il faut privilégier le processus de Luanda ou celui de Nairobi? Je sais que la semaine prochaine, il y aura une réunion conjointe entre l'EAC et la SADC. Pour essayer de trouver quelle voie prendre pour une solution durable à cette crise. Vous pensez qu'il faudrait privilégier Luanda ou Nairobi?
En fait, tout ça, comme je le disais dans ma dernière intervention, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a mis les émotions devant la raison. Il y aura que les États n'ont des intérêts. Ils ont mis amis ni ennemis, sauf les intérêts à défendre. Je me dis, à chaque prise d'une entité, d'un village, des organisations d'assistance civile, autant de personnes ont dénoncé, et fait des alertes, mais jusque-là, on semblait négliger. Et à la lire où nous sommes, et comme je le disais, la prise de la ville de Goma a été une façon de mettre une pression au gouvernement congolais qui avait déjà refusé et d'emblée de négocier surtout directement avec l'M23 et comme dans le cadre du processus de Nairobi. On sait en suivant le processus de Luanda comment est-ce que le Rwanda s'est comporté devant la table de négociation et donc il est clair que cette hypocrisie s'illustre. Mais autant pour des gens qui ne vivent pas en province du Nord Kivu, je fais partie personnellement de cette génération qui est grandie dans la guerre, qui ne connaît que la guerre. Pour ceux qui sont loin de cette province, qui n'ont jamais connu cette guerre, ils la voient de très loin à 2000 km, ils ne s'imaginent pas les douleurs que nous avons dans cette province. Et nous, la solution, évidemment, comme nous l'avons souhaité tout au début de crise, était une solution militaire au départ. Bon, tout en n'est pas négligé la diplomatie, on sait que la diplomatie, tout comme la force, tout comme le sang et de l'eau dans l'organisme d'un être humain. Et donc nous avons mis confiance beaucoup plus à la force. Mais la prise de Goma, nous y étions beaucoup plus pessimistes. Et cette prise nous a étonnés et commence à nous faire craindre aujourd'hui. On s'est dit, les analystes se disent, est-ce qu'il faudrait-il privilégier l'aspect militaire quand on voit le désastre qui s'est passé à Goma, la manière dont, à un certain niveau,
les militaires sur la ligne de front. Il faut conclure, Jimmy Kigoma.
Les militaires sur la ligne de front.
Il faut conclure.
Je vais vers la conclusion. Oui. Les militaires qui ont résisté même dans la Goma, il y a eu. Je vais vers la conclusion. Je disais, quand on voit ce qui s'est passé à Goma, la manière dont les militaires qui ont résisté et à Goma ont manqué de foi, comme on le dit, du secours ou du renfort. Et donc, à un certain moment, on reste dans le désarroi et peut-être est resté paradoxal. On s'est dit, est-ce qu'il faudrait-il la négociation dont d'emblée on connaît déjà la position des parties prenantes qui ne sont là que pour humilier la République démocratique du Congo. Et donc, pour nous, nous voudrions faire un appel à tous les politiciens congolais de renoncer à leurs privilèges à Kinshasa et de promouvoir, de donner beaucoup de moyens. Quand on dit la guerre, on dit les moyens. Nous sommes sur le théâtre de la paix. Quand nous voyons les choses,
on se dit... Alors, est-ce qu'on retient Jimmy Kigoma, que pour vous, il faut privilégier la guerre?
Il faut pas dire qu'on privilégie. Nous souhaitons qu'on privilégie la guerre, mais pour gagner la guerre, comme je le disais, il faut des moyens.
Merci.
Que cette situation prévoit mettre à la disposition de l'armée.
Merci, Jimmy Kigoma. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, on vous a suivi.
Et même la volonté pour mettre fin à cette guerre.
Merci beaucoup, on vous a suivi. Professeur Moïla Tchiembe, très brièvement, votre conclusion.
La question des perceptions, on la connaît. La perception du Rwanda, tout le monde la connaît. La perception du M23, tout le monde la connaît. La perception du gouvernement congolais, tout le monde la connaît. Donc, ce n'est pas un problème de perception. On fait appel à la paix. Mais cet appel s'adresse à qui? Elle ne s'adresse pas aux organisations. L'appel s'adresse aux protagonistes de la guerre. Mais qui sont les protagonistes? En dehors du Rwanda, le pays dont les troupes sont sur le territoire du Congo. Le M23, le groupe des Congolais qui font venir, même font justifier la présence du Rwanda et le gouvernement congolais. Alors, si vous continuez à dire, oui, voilà, ce sont les organisations qui auraient dû soit parler de négociations, soit... Non, ça c'est vraiment c'est de la plaisanterie.
Merci.
Si le M23 ne prend pas conscience qu'à cause de son action, en légitimant indirectement l'action du Rwanda, qui a son propre agenda, le FDLR, et le gouvernement congolais qui a son corps défendant. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit demander au M20. Si aujourd'hui le M20...
Professeur, il faut conclure. Il faut conclure. Il faut
d'arrêter. J'ai négocié avec le gouvernement ne refuserait pas de négocier avec le M23.
Merci, professeur Moïla. Professeur Martin Diakouaou.
Alors, moi, je constate simplement qu'il y a une divergence avec le professeur Moïla. Peut-être prochainement, nous aurons l'occasion de débattre très longuement sur ça. Mais les perceptions dont il s'agit ici, ce n'est ni de la RDC, ni celle du Rwanda. Il s'agit plutôt des perceptions des structures, des organisations et même des États que nous voulons, dont nous voulons capter l'attention et le soutien. Je ne parle pas du Rwanda. Je parle de la SADC, je parle de l'EAC. Nous avons besoin de leur soutien, mais nous devons préalablement questionner leur perception du problème. Comment expliquer, par exemple, madame, que la SADC ait dépêché la Samidiarty, c'était pour faire la guerre, parce que le mandat de la Samidiarty était un mandat offensif. Mais comment expliquer ce revirement? On ne parle plus des actions offensives contre le M23, mais on lance un appel au dialogue. Il y a un revirement, et naturellement, ce revirement traduit un développement des perceptions que nous devons saisir.
Merci, professeur Diakouaou, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Jonathan Folani, Clément Chimanga, Hervé Voka, Pierre Biasinois et Freddy Bikumbi, Martha Sebouchangui a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.